Dans leur tête, de bien pensant, il y en a qui calculent ce qu'il y a de bien pour nous, ce qu'il y a de mal pour nous, parce que ils savent la vérité, ils savent. Il y en a qui calculent la misère et le chômage, le tabac et l'alcoolisme, la délinquance et la violence, parce que faut pas que ça change. Faut pas que ça change.
Georges Charpak, prix Nobel de physique, lançait il y a une dizaine d'années l'opération La main à la pâte. Il était allé chercher l'idée aux États-Unis, où une opération semblable avait été lancée par un autre prix Nobel. À l'époque, cela m'avait quelque peu énervé. Il peut être irritant qu'il faille que ce soit un prix Nobel qui aille découvrir ailleurs ce qui existait depuis un bon siècle chez nous dans le mouvement freinet ou celui des pédagogies actives. Mais bon, en France n'a de valeur et n'a de chance d'être prise en considération que ce qui est estampillé par la notoriété. Charpak aura au moins permis que le tâtonnement expérimental dans le domaine restreint de la science soit officiellement admis comme possible. Ce qui demeure étonnant, c'est que ce ne soit reconnu que du bout des lèvres par le ministère et que finalement y participèrent relativement peu d'enseignants, du primaire seulement. L'institution n'ose même pas s'engager dans un petit changement conceptuel qui ne la remettrait même pas en cause. Alors c'est quoi la main à la pâte? J'ai presque envie de dire que c'est la leçon de choses d'autrefois, mais ce n'est plus le maître qui expérimente devant les enfants, mais ces derniers dans des manipulations moins dirigées. Je vais reprendre le principe annoncé par Charpak. Les enseignants soumettent à la curiosité de leurs élèves des objets et des phénomènes du monde qui les entoure, suscitant le questionnement scientifique. Celui-ci conduit à la formulation d'hypothèses destinées à être testées par l'expérimentation ou vérifiées par une recherche documentaire. Ainsi, les élèves s'approprient progressivement concepts scientifiques et techniques opératoires et consolident leur expression orale et écrite. Vous allez me dire que c'est l'école du troisième type, tout au moins en ce qui concerne le langage scientifique. Eh bien, pas tout à fait. S'il est certain que la main à la pâte constitue une avancée semi-officielle dans ce domaine, elle s'inscrit cependant dans un cadre traditionnel. Et du coup, elle y trouve ses limites. La première différence qui nous éloigne de Charpak, c'est qu'il s'agit de séquences collectives placées dans des temps déterminés. La source de l'activité est le maître. Tout va donc dépendre de sa capacité de motiver, en même temps que de la capacité des enfants à se motiver eux-mêmes à ce moment précis. Vous me direz que c'est assez facile quand la main à la pâte succède aux séances insipides et passives auxquelles sont soumis les enfants. Cela peut même ressembler à une récréation. Cependant, nous savons maintenant que si l'enfant est auteur de ses apprentissages comme l'écrit Hubert Montagnier, il est aussi l'auteur de leur déclenchement. Et le déclenchement qui va dépendre d'une multitude de circonstances ne s'effectuera ni au même moment ni de la même façon pour chacun. Si on peut constater que dans les séances de la main à la pâte, beaucoup d'enfants rentrent dans le jeu et l'activité langagière du tâtonnement proposé, on constate aussi que tous ne le font pas. Or, c'est le tous qui nous importe. La seconde différence, c'est que l'objectif de la main à la pâte est explicitement l'appropriation progressive de concepts scientifiques. Ce qui induit que la finalité de chaque séance est l'aboutissement à un concept. Le tâtonnement des enfants est orienté, dirigé chaque fois vers un concept choisi par le maître. La séance doit donc aboutir au concept juste. Ne me faites pas dire que dans une école du troisième type, on se moquerait que les enfants croient que les feuilles sont vertes pour faire joli ou que la rosée serait les larmes des plantes. C'est même bien tout le contraire. Mais ce que nous tenons à faire développer, c'est le langage très particulier qui fait appréhender et reconstruire le monde dans ses hypothétiques fonctionnements, qui peut créer des représentations et les mettre en doute, non pas parce qu'elles seraient fausses, mais parce que l'enfant sait en rechercher la cohérence et la vérifier. C'est à un comportement permanent que nous voulons aboutir, à l'utilisation naturelle d'un langage, outil cérébral, qui permet, entre autres, de construire ou de rentrer dans des concepts. Je dirais le langage qui permet d'être scientifique avant d'être savant. Entre penser que l'univers serait né d'un Big Bang et penser qu'il provient d'un bonhomme barbu, il n'y a pas grande différence, sauf le conditionnel du Big Bang qui passe souvent inaperçu.
Dans leur tête de marionnettes, il y en a qui calculent qu'ils peuvent pas gober tout ça, mais comme ils ont des têtes d'œufs, ils se font gober quand même.
Charpak enfonce bien le clou, déjà enfoncé avant lui par les Freinet et autres pédagogues, qu'un concept ne s'apprend pas, mais se construit. Nous ne sommes pas du tout en opposition avec lui. Mais nous ne réservons pas le tâtonnement expérimental, l'élaboration des théories, à des séances collectives inscrites dans des progressions. Nous ne nous contentons pas de provoquer et de mobiliser la curiosité sur des sujets que nous choisissons. Cette formidable curiosité dont est pourvu l'enfant et que malheureusement on lui fait perdre, cette formidable capacité créatrice que l'on ne retrouve plus que chez les artistes, les poètes ou certains scientifiques, doivent pouvoir s'exprimer, se réaliser à tout moment, quelle que soit la direction que l'enfant lui donne. Ce qui fait naître les représentations, les interrogations, la création de nouvelles représentations appelées théories, la recherche de leur validité, se trouve dans la confrontation permanente de l'enfant avec un environnement et dans l'interrelation avec les autres. Le déclenchement et la mobilisation du langage scientifique est imprévisible en même temps que ses occasions en sont infinies. La conception d'une école du troisième type permet la richesse de cette imprévisibilité, son développement, ses rebondissements. Le langage scientifique n'est pas un langage que l'on utilise alors seulement dans des plages de temps déterminées et dans une finalité restreinte à l'appropriation de concepts jugés indispensables. Ce que nous cherchons à développer, c'est d'abord le langage scientifique. Plus que l'enfant est auteur de ses apprentissages, il en est la source. C'est notre différence avec Charpak, tout en reconnaissant que celui-ci, placé dans la structure traditionnelle de l'école dont il est lui-même issu, ne pouvait aller plus loin dans la création d'un concept éducatif. Aussi scientifique soit-il, et aussi peu scientifique sommes-nous. Vous avez peut-être remarqué que le langage scientifique est le plus subversif de tous, puisque c'est celui de la remise en question et du doute par excellence. Bien plus subversif que la disposition de connaissances scientifiques. Peut-être est-ce pour cela que l'institution reste frileuse, même pour mettre en œuvre les propositions d'un prix Nobel.
Dans leur tête de marionnettes, il y en a qui calculent qu'ils peuvent pas gober tout ça, mais comme ils ont des têtes d'œufs, ils se font gober quand même.